Ici l'Ombre, la radio de Concertina.
Bonjour et merci d'être à l'écoute d'Ici l'Ombre, chaque jour pendant la durée de Concertina. Ce rendez-vous à 16h avec Ma Grande Évasion. Un détenu, un ancien détenu, vient raconter dans le parc La Baume son évasion ou ses évasions, parce que vous verrez qu'au cours de la semaine, certains se sont évadés à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, nous avons reçu à midi, aujourd'hui dans le parc La Baume, Gaby Mouesca, militant de la cause basque, qui va nous raconter donc sa grande évasion. Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là à ce rendez-vous Ma Grande Évasion, chaque jour à midi dans le parc La Baume. Bonjour à vous, Gabriel Mouesca. Un certain nombre de gens ici vous connaissent pour votre passé de militant de la cause basque. Vous avez milité d'abord à l'extérieur des prisons, puis vous avez été arrêté et vous avez continué la lutte dans les prisons françaises dans lesquelles vous avez passé 17 années. Ensuite, dans une autre vie, entre guillemets, vous avez été président de la section française de l'Observatoire international des prisons. Et enfin, vous avez exercé des responsabilités au sein de la Croix-Rouge, puis d'Emmaüs France, toujours sur la question de l'enfermement. Si on se rapproche de l'homme, on peut dire, préciser que vous êtes né le 7 septembre 1961, vous avez bientôt 61 ans. Et dans votre enfance, vous avez parlé le basque avant de parler le français. Vous avez grandi dans un village du Pays Basque Nord, Saint-Étienne de Baigorry. Dans ce village, il y a deux lieux qui ont beaucoup compté pour vous. L'église, vous êtes issu d'une famille catholique pratiquante. Et puis le fronton de pelote basque, comme pour tout jeune garçon basque qui se respectait à l'époque. Mais la pelote, vous l'avez pratiquée non pas dans votre village d'origine, mais à Bayonne, où votre papa est muté lorsque vous avez 7 ans. Votre père, il exerce la profession de gendarme mobile. Donc vous grandissez pendant quelques années en caserne, au cœur du dispositif répressif d'État. Quand on connaît la suite de votre parcours, c'est assez truculent. Quelques années après, votre père doit prendre une retraite anticipée pour des questions de santé. Et votre mère doit se mettre à travailler. Jusque-là, elle a élevé ses deux garçons. Elle devient femme de ménage. Elle se syndique et elle milite pour défendre les droits des invisibles, les femmes de ménage. Alors, première question, Gaby Mouesca, est-ce que l'engagement syndical de votre maman, sa militance, a quelque chose à voir avec votre engagement à vous pour la cause basque ?
Je marche sur deux pieds, et c'est vrai que de très jeune, à partir de l'âge de 15 ans, j'étais militant au niveau culturel, linguistique, en tant que basque. Je vivais dans un territoire où notre langue, notre culture n'était pas respectée, ce qui m'a amené à m'engager. Et puis à l'âge de 17 ans, je suis rentré à l'usine et j'ai eu ma conscience sociale qui s'est développée grâce à ce que j'appelle les trois plus beaux mois de ma vie, qui ont été une occupation de notre usine, nuit et jour pendant 3 mois, et qui ont été véritablement le moment qui m'a permis de révéler le militant que je suis devenu, et qui, je le répète, ont été les 3 mois les plus importants et probablement les plus beau parce que j'ai vécu ce qu'est la solidarité des gens de peu, comme disait l'abbé Pierre. J'étais ouvrier et je revendique toujours la beauté de ces quelques mois.
Pourquoi vous dites c'est les plus beaux de ma vie ? 3 mois de grève
Parce que j'ai connu, alors on a tout connu de la répression patronale et d'État, avec intervention de commandos d'extrême droite contre nos biens, contre l'usine, l'intervention des CRS. C'était 2 mois avant le 10 mai 81. Je pense que ceux qui ont les cheveux blancs savent de quoi je parle, du 10 mai 81. Et il y avait beaucoup d'entreprises en France qui étaient en grève. Un certain nombre de patrons pensaient que les chars russes allaient débarquer sur les Champs-Élysées. Donc c'était un petit peu la folie de leur côté. Et nous, ouvriers, on défendait notre outil de travail. Et c'est en ce cadre-là qu'on a fait la grève et que j'ai connu ce sentiment de solidarité, de cette beauté que je souhaite à tout le monde de connaître dans la vie, c'est-à-dire de vivre la solidarité au présent, comme, pour faire le lien avec les évasions, c'est aussi un sentiment que je souhaite à tous mes contemporains de vivre dans leur vie une évasion. Alors ça ne veut pas vous dire que je vous souhaite tous d'être incarcérés, bien évidemment, mais je vous assure que c'est un sentiment extraordinaire que celui de s'échapper des griffes de l'État.
Alors on va venir à l'évasion assez vite. Après cette action syndicale, vous rejoignez Iparétarac, qu'on baptisait à l'époque ICA, hein, et donc mouvement basque pour l'autonomie du Pays basque. Quel était le programme en quelques phrases et la stratégie de ICA à cette époque?
J'aime bien l'utilisation des mots parce que tu me disais, tu étais militant basque. J'ai vécu quelques décennies où j'étais le terroriste basque. Et j'aime cette évolution sémantique qui est partagée aussi par la presse. Hein. Aujourd'hui, je ne suis plus le terroriste. Je suis quelqu'un de tout à fait fréquentable. Et la question de... j'utilisais la violence. Hein. Je parle d'action politique, tout ça. J'utilisais à partir de l'âge de 18 ans ce qu'on appelle encore le terrorisme. Et donc j'ai été militant d'une organisation qui utilisait à des fins politiques la violence armée, dans une organisation qui n'était pas l'ETA, comme beaucoup de gens connaissent cette organisation qui s'est éteinte il y a 12 ans maintenant. J'étais dans la petite sœur de l'ETA, on dira, qui était Iparétarac, qui se différenciait. Je le souligne parce que c'est quand même important. Nous n'avons jamais éliminé une personne humaine volontairement. Hein. Malheureusement, on a eu des échanges de coups de feu, en particulier avec la police et la gendarmerie, où il y a eu des morts des deux côtés. Et j'ai été condamné pour une de ces opérations. Mais ça n'a jamais été supprimer la vie de quiconque. Hein. On considérait que tuer une personne, pour nous, ça allait nous faire reculer de plusieurs années, voire de décennies de travail, de conscientisation de la population. Et donc, on s'est toujours interdit d'éliminer toute personne humaine.
Vous parliez, je crois, de violence de basse intensité. Vous posiez des bombes hein, aussi.
Oui, oui.
Et vous entrez dans la clandestinité, du coup, en militant activement à ICA.
Oui, je fais partie des quatre premiers militants d'Iparétarac qui ont fait le choix délibéré un jour de quitter la normalité de la vie, quitter nos familles, quitter nos emplois pour entrer dans la clandestinité. On n'était pas recherché par la police et la gendarmerie, mais il nous semblait stratégiquement que c'était important pour animer la vie de notre organisation de nous engager totalement, 24 heures sur 24. Et ça veut dire une coupure définitive, un stade de non-retour avec la vie sereine dans la société. Donc j'ai fait ce choix-là. Et puis après, bien évidemment, le temps passe et un jour vous êtes repéré par les forces de police et de gendarmerie. Et là, votre nom apparaît et vous êtes toujours clandestin, mais recherché officiellement par les services de l'État. Et là, c'est une autre situation.
1er mars 84, vous êtes arrêté et incarcéré à la maison d'arrêt de Pau. Vous parlez dans votre livre de mon choc carcéral, c'est vos mots. Qu'est-ce que c'est votre choc carcéral? Quel souvenir vous en avez aujourd'hui?
D'abord, je rappelle qu'à cette arrestation, le camarade qui m'accompagnait en voiture a été tué par la police, d'une balle dans le dos. C'était un pêcheur, un jeune pêcheur de Saint-Jean-de-Luz. Et mon choc carcéral, moi je suis quelqu'un de tout à fait normal, hein, je suis tout à fait un citoyen lambda, j'ai toujours été. Et quand je suis rentré à la prison de Pau, qui était une vieille prison, je me souviens qu'au troisième jour, on a toqué à la porte de la cellule et un surveillant m'a dit « la messe ». C'était la première fois que je sortais en trois jours, c'était pour aller à la messe, le dimanche. Et je suis rentré dans une salle qui était la messe, le lieu d'office. Il y avait le prêtre qui était là, puis une dizaine de prisonniers. Et il y avait un banc libre devant. Hein. C'est un phénomène que je vois souvent dans les églises. Les premiers bancs sont toujours vides.
C'est un peu le cas ici aussi. Hein.
Et là, je me mets sur le premier banc et j'entends derrière les murmures, parce que nous, évidemment, mon arrestation avait fait la une de l'actualité en France. Et tout le monde, c'est Mouesca. Et donc, moi, je ne les regarde pas. Je regarde le prêtre. Le prêtre commence à officier. Et la lecture de l'évangile, je ne sais plus exactement quel texte de l'évangile c'était. Mais c'était forcément, c'était un texte qui était, entre guillemets, une apologie de l'amour. Et moi, je venais de vivre une expérience dramatique. Un ami s'est fait tuer. J'avais subi quelques violences que les policiers ont expliquées comme des violences physiques que j'ai reçues au commissariat lorsque j'ai été arrêté. On dit oui, on s'excuse, mais on était très nerveux, il y avait le préfet, tout ça. C'était un piège dans lequel je suis tombé et les policiers ont trouvé, ils s'excusaient de violences qu'ils considéraient légitimes parce qu'ils étaient sous tension. L'autorité supérieure leur avait mis tellement de tension pour m'arrêter que ils se sont défoulés sur moi. Et donc, dans cet office-là, je me suis mis à pleurer. Alors, vous savez ce que c'est, les garçons on se cache pour pleurer. Hein. C'est notre éducation, là aussi. Heureusement, je constate aujourd'hui que ça évolue, mais je pleurais tellement il y avait un choc entre les propos que j'entendais de ce prêtre, dont les paroles étaient, pour faire court, des paroles d'amour, et la violence ultime que j'avais vécue quelques jours avant. Et donc, ce chaud et froid m'avait fait pleurer. Et donc, c'est le premier souvenir que j'ai eu de... J'ai pleuré trois fois dans ma vie en 17 ans de prison. J'ai pleuré trois fois. C'est des souvenirs que je porterai jusqu'à mon dernier souffle.
Ici donc dans le parc Labaume à Dieulfi pour la suite de cette grande évasion avec Gaby Mouesca. Alors ce rendez-vous s'intitule ainsi, chaque jour à midi dans le parc sur la petite scène. Mais pour vous Gaby, le titre est particulièrement adapté. Votre évasion, c'est une grande évasion au sens où elle n'implique pas seulement une personne ou deux, mais tout un groupe. Et c'est une entreprise de longue haleine. Donc racontez-nous votre grande évasion.
Je dois dire d'abord que les plus grandes évasions sont les évasions solitaires de gens qui se donnent les moyens uniquement, individuellement, de se réapproprier la liberté. Et j'ai beaucoup plus de reconnaissance et, par rapport à ces évasions-là que la mienne, qui était effectivement une opération de type militaire et dans lequel, en fait, je n'ai qu'un petit pourcentage de mérite, même si j'ai participé à l'organisation sur une année. Il n'empêche que, déjà, dans cette opération, c'est les militants, une quinzaine de militants et militantes qui ont pris le risque de perdre leur liberté, voire de leur vie. C'est à eux que revient le mérite de cette évasion. Et je redis, ce sont les évasions individuelles qui, pour moi, représentent le degré de mérite le plus important. Alors, notre évasion, elle s'est inspirée d'une évasion qui s'est produite à une des prisons de Lyon durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les résistants qui s'étaient déguisés en gendarmes et qui étaient à la prison, je crois que c'était Montluc, pour extraire des résistants et dire à l'autorité pénitentiaire, on les amène à la gendarmerie pour les questionner. Et ils sont sortis comme ça et évidemment, rapidement, tout le monde est parti en courant et est reparti dans la résistance. On s'est inspiré de ça avec la différence quand même importante qui est que, on ne sait pas, mes camarades ne se sont pas habillés en gendarme, comme l'était mon père, mais en membre du GIGN. Donc pendant un an, les militants et militantes, hein, il y avait des femmes aussi, pendant une année, se sont d'abord inspirés de, ben, parce qu'il fallait des moyens techniques, il fallait des voitures, quatre véhicules, il fallait des uniformes. Donc on a acheté dans les bibliothèques des ouvrages parce que les grands patrons du GIGN pendant un temps écrivaient beaucoup sur leur vie, sur leur œuvre, et ils se mettaient beaucoup de photos, etc. Et donc ben, on s'est inspiré de ce qu'on voyait dans ces livres, de ces photos, ben, pour faire des uniformes ressemblant à trait pour trait, c'est-à-dire bouton en bouton à ces uniformes du GIGN. Et donc l'idée c'était que on simule le transfert de moi, mais aussi d'une camarade femme qui était au quartier, femme de la prison de Pau, et que ça soit, que ça passe comme un transfert classique de prisonnier d'un établissement à un autre. Donc ça s'est préparé pendant un an, et le jour où ça devait se faire, un samedi, eh bien au dernier moment on a reporté in extremis la date, tout simplement parce que la personne qu'on visait pour nous aider, entre guillemets, c'était le directeur, et le directeur n'était pas de permanence.
Il fallait un week-end et le directeur de permanence.
Voilà. Et donc, au dernier moment, on s'est rendu compte que le directeur n'était pas de permanence, donc on a repoussé l'opération. Et puis la semaine suivante, donc, le directeur était à son poste, et l'idée c'était d'attirer le directeur chez sa fille, qui habitait dans la ville de Pau. Lui avait sa femme, vivait au sein de la prison. Et donc le commando, donc on l'appelait le commando Didier, parce que Didier c'était le camarade qui a été tué à côté de moi lors de mon arrestation. Donc en hommage à cet homme, à ce militant, eh bien on a pris son prénom comme pour dénommer le nom du commando. Donc le commando Didier est arrivé chez la fille du directeur, est rentré, elle se trouvait avec son compagnon, et on a expliqué, j'allais dire, avec les armes et tout ce qui allait avec, qu'il s'agissait d'un kidnapping, et que notre volonté était qu'elle attire son père dans son appartement. Donc elle a téléphoné à son père qui était au sein de la prison. Il a dit, en pleurs évidemment, vous imaginez le choc que ça peut être, en disant, papa viens, j'ai besoin de toi. Et le papa directeur est allé de suite chez sa fille, et quand il sonne à la porte s'ouvre, mais c'est pas sa fille ou son gendre qui était là, mais c'était un homme en cagoule qui pointe une arme, 9 mm, et qui dit de rentrer. Et ce directeur de prison, avant, il s'appelait Robert Bonnour. Il est mort il y a 5-6 ans. Et Robert Bonnour, c'était avant d'être dans la pénitentiaire, c'était un mineur. C'était un type, il avait des paluches extraordinaires, un homme costaud, un homme voilà, qui connaissait ce métier de mineur. Et sa réaction, ça a été de se saisir du pistolet. Il n'a pas eu peur, il a pris le pistolet. Et le militant, nous on croit que quand on a une arme, c'est dissuasif. Et bien la preuve que non, cet homme a réagi d'une façon qu'on n'imaginait pas. Et celui qui avait l'arme, il tient comme ça, évidemment, pour ne pas se faire piquer l'arme. Et l'autre avait ses mains de mineur qui se saisit de l'arme. Il a fallu qu'un autre militant vienne et, avec la crosse de l'arme, tape sur la tempe pour provoquer l'arrêt du maintien de la main du directeur sur l'arme. C'est avec ce coup, pam, que le type arrête de se saisir de l'arme. Et donc,
c'est à peu près la seule violence qui émaillait l'évasion. Hein.
Oui, sauf qu'elle aura, après j'expliquerai, des conséquences importantes qui auraient pu être dramatiques pour tout le monde. Et donc, tout le monde est dans l'appartement. Et là, le responsable du commando explique au directeur quelque chose. Alors, je vais utiliser un mot qui est très à la mode maintenant, mais qui dans le temps ne l'était pas. L'idée, c'était de co-construire l'évasion. Co-construire l'évasion. C'est-à-dire que lui, il connaissait bien sa boutique, Et l'idée, c'était de dire, on est venu ici, on a une volonté, c'est faire sortir Mouesca et Madiegui de la prison. Comment on fait ? On a 4 véhicules, on est en GIGN, on souhaite faire une simulation de transfert. Qu'est-ce qu'on fait avec vous ? Alors évidemment, poser la question comme ça, on peut imaginer que le directeur dit ben, « je joue pas le jeu ». Alors il fallait quand même l'inciter à avoir une bonne réaction. Donc on lui a expliqué évidemment que pendant l'opération, sa fille et son gendre resteraient aux mains d'une partie du commando. Et c'est ce qui s'est fait. Et puis deuxième élément, on lui a mis une ceinture d'explosifs autour de sa ceinture, tout simplement, avec un dispositif de mise à feu à distance. Et bon, comme vous pouvez l'imaginer, quand vous avez un tel appareil autour de vous, vous dites oui, je vais faire ce que vous me demandez. Alors, je vous rassure. L'enquête a démontré que c'était évidemment une fausse ceinture. Hein. C'était là aussi, c'était une ruse. Vous savez, on dit souvent que la ruse en politique ou en lutte armée, c'est les Basques qui l'ont inventée parce que nous sommes un petit peuple. Nous n'avons pas les moyens de nous défendre depuis la nuit des temps contre les grands pays, les grands États organisés. Et donc, on a toujours fait preuve de beaucoup d'imagination pour nous en sortir et ça nous a réussi puisqu'on est toujours vivants, collectivement. Bref, donc là aussi, sur l'évasion, on a joué sur cette notion de ruse pour obtenir nos objectifs. Et donc, le directeur accepte l'idée de nous aider et quelque part de céder dans la situation qu'il vivait. Et donc, on a, j'allais dire, minute après minute, organisé dans l'appartement de sa fille comment allait se dérouler cette évasion.
Quand vous dites « on », vous êtes vous en
moi,
cellule,
je suis dedans,
évidemment.
Je suis dedans, oui. Ouais. Et j'attends qu'ils arrivent. Et donc, ils sont tous rentrés dans les 4 véhicules. Ils sont allés vers la prison sans problème. 2 véhicules se sont présentés devant la grande porte. Et pour entrer dans la prison, il y a la grande porte et une petite porte à côté où passent les gens individuellement, dont le directeur. Et donc, on se positionne devant l'entrée principale, 2 voitures, et 2 autres restent à proximité. Et donc, uniquement avec des gens en uniforme à l'intérieur. Le directeur sort de la première voiture, il rentre seul dans la prison. Alors, vous imaginez que là, tout pouvait se jouer. Hein. Le directeur pouvait, j'allais dire, reprendre sa casquette de directeur, disant « je suis pris en otage, il se passe quelque chose ». Mais il n'a pas fait, et on le comprend pourquoi. Et il prévient les gens qui étaient de permanence là, ce samedi après-midi-là, en disant « le GIGN est là, ils font extraction de Mouesca et Guy ». Et donc la grande porte s'ouvre, et les deux premières voitures rentrent, le directeur rejoint le commando, et il rentre dans la prison. Il rentre au greffe, et là, le chef du commando, avec le directeur, va vers ma cellule, traverse toute la prison pour aller à ma cellule. J'étais dans une cellule qu'on appelle un chauffoir. Un chauffoir, c'est une cellule collective. Hein. On était 5 prisonniers politiques, basques, de 3 organisations différentes, qui étions dans ce chauffoir-là. C'était en fin d'après-midi, et moi, je regardais par la fenêtre si mes camarades arrivaient. Et je les ai vus rentrer, je les ai vus passer dans des couloirs sur une centaine de mètres, je les ai vus. Et je me suis assis sur mon lit, et à ce moment-là, j'étais en transe. Mmh. Je ne sais pas si vous avez vécu des situations de ce type-là, de mes cheveux jusqu'au bout des pieds. J'ai bougé, physiquement, j'étais en transe. Je ne sais pas si ça a duré 5 secondes, 20 ou une minute, mais j'ai passé un moment où je n'étais pas moi-même. C'était l'émotion, évidemment, de voir et que ma vie allait changer radicalement dans les instants qui allaient venir. Là-dessus, le directeur ouvre la porte. Je vois derrière mon camarade qui était un habit de policier. Et le directeur, d'une voix ferme, dit « Mouesca, vous préparez votre paquetage, vous êtes transféré. » Bon, et il referme. Et mes 4 camarades qui sont à côté de moi, il y avait trois militants de l'ETA et un des commandos autonomes anticapitalistes qui me regarde et qui me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Alors je dis, en basque évidemment, je leur dis « c'est une évasion ». Bon, évidemment, ils ne m'ont pas cru. Et d'autant plus qu'eux, ils allaient rester en cellule. Ils allaient rester en cellule parce que ce temps-là, l'ETA avait décidé de ne jamais agresser l'État français. Hein. Ce temps-là, les militants et militantes de l'ETA avaient pour ordre de jamais s'interposer à des policiers ou des gendarmes ou des fonctionnaires de l'administration française. Et donc, je leur explique...
Oui, parce que la France était un lieu de repli pour eux.
C'est ça.
Un
havre de paix, on dira. Et donc, je leur explique que c'est une évasion. Je rassemble quelques affaires qui étaient importantes, en particulier des papiers, des choses comme ça. Je prends qu'une partie de mes affaires. J'avais derrière mon lit un drapeau basque que j'avais fait rentrer de façon, là aussi, détournée. Vous n'avez pas le droit de rentrer des symboles nationaux en prison. Donc j'avais fait imprimer sur une serviette de plage mon drapeau, le drapeau basque, et c'était rentré en tant que serviette, tout simplement. Et je l'avais mis sur mon mur, et je l'ai replié, et j'ai dit à un des camarades qui était là, un militant de théâtre, j'ai dit, tu vas remettre ça à un tel. C'était un gars qui travaillait aux cuisines, et qui m'a permis pendant plusieurs mois par sa coopération, de préparer l'évasion avec la femme qui était au quartier femme. C'est lui qui était à la cuisine et qui apportait les plats au quartier homme et au quartier femme. Et certains messages, c'est lui qui les passait à Madiégui, donc cette femme qui s'est évadée avec moi. Et donc j'étais reconnaissant de l'aide. Et mon dernier acte dans cette prison, ça a été d'abord de donner ce drapeau et dire, voilà, c'est un tel que tu dois donner. Alors, pour l'anecdote, dans ma prime jeunesse, j'avais une chanteuse que j'adorais, hein, mais le mot est faible. Alors là, vous rentrez dans mon intimité, excusez-moi, mais c'était Tina Turner. Mmh. Et ce samedi-là, alors les plus anciens ici connaissent, ça s'appelait Rapido. Je sais pas, c'était une émission à France 2, ou enfin c'était une émission de musique, de rock. C'était Antoine Decaune qui animait cette émission. Et il y avait un concert en direct de Tina Turner. Mes camarades m'ont fait sortir le soir où il y avait peut-être le seul programme qui m'avait intéressé depuis quelques semaines, qui était le concert en direct de Tina Turner. Bref, je ne l'aurais jamais pardonné. Et donc, quand j'explique donc que je m'en vais, et donc quelques minutes après, le directeur m'ouvre la porte à nouveau et on descend au greffe. Le greffe, c'est la partie dans laquelle vous faites les documents administratifs, c'est là où vous récupérez les biens, etc. etc. Et à côté du greffe, il y avait la salle dans laquelle ils mettent les valises, où ils mettent les éléments personnels des personnes détenues qui ne peuvent pas être mis en cellule. Et donc, il y avait des surveillants de permanence. Et il dit, Mouesca, venez avec moi. Et donc, il me met dans cette pièce, parmi plein de valises, tout ça. Et il ferme la porte. Et là, il me tient un discours extrêmement ferme. C'était assez fou, quoi, parce qu'il était quand même une situation où il n'était pas en position de force, mais il maintenait en disant « Mouesca, je ne vous pardonnerai jamais ce que vous me faites là, je ferai le nécessaire pour remettre la main ». Vraiment un discours menaçant. Bon, donc je dois avouer que j'étais un petit peu impressionné par son attitude, mais il continue à jouer le jeu. Et donc après, je suis la procédure légale de transfert, et entre autres, ma fiche, la fiche pénitentiaire, je devais la signer, et j'ai signé, pas du nom de Gabi Mouesca, j'ai signé Ipare Tarak, qui était le nom de notre organisation, et il me semblait que c'était une attitude fort à propos que de signer avec le nom de l'organisation. Et puis, la camarade qui venait du quartier femme est arrivée. Et là aussi, c'est un moment, évidemment, vous imaginez, un petit peu d'émotion. Le militant qui me tenait, qui m'a mis les bracelets, les menottes, m'a glissé un double de la clé des menottes dans la paume de ma main. Hein, quoi qu'il arrive, que j'ai toujours la possibilité de m'enlever ces bouts de fer. Et on est sorti, on est rentré dans les voitures. Et je me souviens de quelque chose d'assez cocasse. C'est que quand on est ressorti, quand la grande porte s'est ouverte, il y avait un surveillant qui était juste à côté de la porte. Puis voir le GIGN à quelques centimètres de lui, pour lui, c'était un moment d'histoire personnelle, professionnelle. Et il a fait le geste des militaires, comme ça. Et nous, dans la voiture, tout le monde qui rigolait en disant... Bon, je ne vais pas vous dire comment on l'appelait, mais pauvre machin, si tu savais ce que tu étais en train de vivre, sûrement que tu ne nous saluerais pas comme ça. Donc, mais bon, il avait été jusqu'au bout leurré par cette opération-là. Après, nous sommes partis très rapidement, c'était en début de soirée. La fille du directeur a été relâchée. Et nous, on a fendu dans la nuit pour disparaître. On est allé dans une grande ville du sud de la France pour passer la première nuit. Alors, quand vous sortez, ça faisait 2 ans et 10 mois que j'étais en prison. Donc, quand vous êtes en prison, vous avez une vie un peu, j'allais dire, de retraité. Hein. D'ailleurs, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, quand vous regardez les prisons, et particulièrement les
retraités centrales... Retraités inactifs, parce que sinon vous allez vexer un certain nombre de gens qui sont là.
Oui, 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 excusez-moi. Merci.
Non.
Je ne suis pas venu ici pour me faire lapider ou lyncher. Merci. Et donc, quand vous allez à la maison centrale, donc dans les lieux accueillant les gens qui font de longues années de prison, parfois des décennies, vous allez remarquer qu'ils marchent très, très doucement, très, très doucement. C'est le marquage de la détention de longue durée. Et donc là, je sors de prison, au bout de 2 ans et 10 mois, avec, j'allais dire, ce corps qui est un petit peu au ralenti. Et là, ben, j'avais des maux de ventre. Bon, excusez-moi, il est midi, mais j'ai passé beaucoup de temps à rendre de la fenêtre, parce que c'était un speed que je ne supportais pas physiquement. Et on est passé dans des villages où c'était le samedi, il y avait des balles, et on fendait la foule. Et malheureusement, je voyais que la voiture passait contre les gens. Hein, et puis, ils nettoyaient notre bagnole que j'avais maculée de mes trucs. Bon, passons. Ça aussi, c'est la petite histoire. Et puis, nous, on écoutait la radio, parce qu'on fonçait, parce que le temps où l'autorité n'était pas informée de cette évasion, c'était autant de temps que l'on mettait au bénéfice de l'échappée belle. Et puis, au bout d'une heure, effectivement, on a fait la une de tous les médias, mais on était en lieu tranquille, et donc, voilà. L'opération s'est passée... de la sorte.
Merci pour ce récit, hein. Il est infiniment plus détaillé, vous avez de la chance de dans le livre, c'est une des premières fois que vous racontez avec autant de précision.
Oui, moi, je l'ai dit hier, le 13 juillet à venir, fera 21 ans que je suis sorti de prison, j'ai fait des dizaines de machins publics, de débats, etc., d'interventions dans les médias, jamais on ne m'a... invité à m'exprimer sur l'évasion en tant que telle. Et c'est pour ça que quand j'ai eu cette invitation de Bernard et de sa bande, j'ai dit OK de suite, parce que effectivement c'est un thème qui n'est jamais abordé, et comme on nous l'a expliqué précédemment, c'est une thématique qui mérite qu'il y ait réflexion sur le sujet par rapport au passé, au présent et à l'avenir, parce que c'est un thème qui est étroitement lié, intimement lié au fait carcéral. Et on sait que malheureusement, notre pays s'inscrit encore dans la durée sur l'existence des prisons au cœur de nos sociétés.
Zuretzat inor ez banaiz ere utzi hazten Ekiak berak egin azan bere Bero izpi bat ez bederen Zuretzat inor ez banaiz ere utzi siloratzen. Euritatzen dantzak, ez nahazan bilhera be. Zuretzat inorrez banaiz ere, utzi aletzen. Aize hezeak lurrean, pausahan azan ondoren. Zuretzat inorrez banaiz ere, jakizu niretzat bazarela, oso zinezko egiazko. Ikusten zaitu dan bezala, eta haziz lohoratuz, aletuz dobala. Nire hitzo grazia zure zeru lurraren bihotzea.
Merci pour ce récit, Gabi, que vous avez, vous n'aviez jamais livré jusque-là avec tous ces détails. Donc vous vous retrouvez dehors et vous reprenez la lutte clandestine. Mais si on revient sur l'évasion, c'est aussi, bon, c'est un succès pour vous, c'est un succès en soi, vous êtes libre, mais c'est aussi un grand succès politique pour Ipar-et-Tarak, qui était un peu considéré comme une organisation de bras cassés, entre guillemets, par rapport à votre grande sœur de l'ETA.
Je vous remercie de m'humilier publiquement. oui, on était un petit peu les petits frères de l'ETA. Et à cause de l'ETA, je le dis publiquement parce que c'est une réalité reconnue historiquement et que des gens ont déjà écrit là-dessus, nous n'avions pas accès à l'armement, je veux dire, au commerce des armes parallèles, du fait que l'ETA ne voulait pas que l'on existe et donc il faisait le nécessaire pour ne pas qu'on puisse acheter des armes dans le circuit de vente parallèle des armes. Mais ça, c'est une petite histoire. Et donc, on est resté des petits artisans avec des moyens limités et des petits moyens limités qui faisaient qu'on avait, alors j'ai pas de chiffres officiels là-dessus, mais un taux de non-réussite d'explosion qui était assez élevé. Ce qui nous a amené aussi à prendre beaucoup de risques, là je rigole moins, pour désamorcer des bombes qui ne fonctionnaient pas et pour éviter qu'il y ait des bavures. Nous avons pris des risques conséquents et que, bien évidemment, les gens et que les magistrats n'ont jamais évoqué, mais c'est une réalité, ça aussi, qui est à notre actif et pas à notre passif.
Oui, la question, c'est la réussite de l'évasion.
Oui. Donc, politiquement, au Pays Basque, ça a été quelque chose qui a été accueilli dans les milieux nationalistes comme s'ils avaient gagné chacun 10 millions au loto. Et ce soir-là, par exemple, lorsque notre évasion a été annoncée dans les balles, il y a eu des concerts dans lesquels des groupes changeaient la chanson Il est libre, Max. Je sais pas, vous connaissez cette chanson.
Il est libre, Max.
Et là, il disait Il est libre, Gabi. Et ça a été la folie dans beaucoup d'endroits au Pays Basque. Donc, politiquement, effectivement, l'autorité française a reconsidéré son regard sur Ipar-et-Tarak. Le premier fait, c'est que quelques jours après, au Conseil des ministres, nous avons été Ipar-et-Tarak interdits. Hein, on est rentré dans la liste des associations interdites. C'est-à-dire que les militants n'ont non seulement été poursuivis s'ils étaient accusés d'être hyper-attaque d'association de malfaiteurs, mais ils étaient aussi reconstitution de ligue dissoute, hein, parce qu'on était passé donc comme organisation interdite. Donc c'est quand même, l'évasion a eu cet impact qui était quand même important. Après, on a eu beaucoup de presse, bien évidemment. Après, et ça a été un petit peu dit dans le débat précédent, l'État tire des leçons de chaque évasion. Moi, après l'évasion, on m'a dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire en France. S'évader et faire de la fausse monnaie. L'État n'accepte pas ça. Et effectivement, hein, dans les années à partir de 80-90, et je parle sous le contrôle de notre maître, docteur S. Évasion, qui est devant moi, beaucoup de gens qui s'évadaient, lorsqu'ils étaient repris, ils étaient liquidés, quoi, hein. Il fallait surtout pas donner le mauvais exemple aux prisonniers, c'est-à-dire que ceux qui osaient enfreindre l'interdit, eh bien, bien souvent, soit ils se faisaient dessouder lors de l'arrestation, soit on leur imposait par la suite, comme j'ai vécu pendant 3 ans d'isolement total, c'était le prix à payer pour l'évasion, parce qu'on avait passé ce qui n'était pas acceptable par l'État. Et donc, j'ai quand même un regret dans tout ça, et je reviens à au fait que l'État tire des leçons de toutes les évasions, c'est que bon, j'étais pas très doué pour la liberté, apparemment, parce que j'ai été repris 6 mois après l'évasion. Et bien évidemment, les mois qui ont suivi, il y a eu les enquêtes qui ont été ouvertes sur l'évasion, qui, quand, comment. On m'a ramené à Pau pour voir un juge d'instruction. Et donc, j'ai passé une journée à la prison de Pau, dont je m'étais évadé quelques mois précédemment. Et le peu de temps que je suis resté, c'était un balai d'ouverture de ma cellule et de surveillants qui sont rentrés, responsables syndicats, qui me disaient, en résumé, merci Mouesca. Grâce à vous, on a obtenu ce que, pendant des mois, des années, nos syndicats ne sont pas parvenus à avoir, c'est-à-dire un super mirador au milieu de la prison, des salles de veille la nuit, la télé, etc., etc. Enfin, des choses qu'ils ne parvenaient pas à avoir. Ils l'ont obtenu du jour au lendemain grâce à cette évasion-là.
C'était le mirador Mouesca, parce que dimanche, avec François Besse qui est là, on apprendra que dans une autre prison, on a érigé des miradors François Besse, hein, aussi. Ouais.
Donc, alors c'est vrai que c'est, j'allais dire, une forme de jouissance individuelle de l'évasion, mais d'un autre côté, alors ça, évidemment, on ne le mesure pas et, j'allais dire, on n'anticipe pas, bien évidemment, c'est après qu'on on prend conscience de ça, mais ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques sur les prisonniers et les générations de prisonniers à venir. Hein. À cause de nous, je dirais, il y a des prisonniers aujourd'hui qui vivent des conditions de détention beaucoup plus difficiles qu'avant nos évasions respectives. Donc ça, c'est une chose qu'il faut, quand même reconnaître.
Merci Gabi pour tout ça. Ah, il est passé 12h30, mais on ne va pas se séparer comme ça. Simplement, si parmi vous, il y en a qui doivent manger rapidement parce qu'ils vont assister à d'autres événements tout début d'après-midi, des rencontres, bon, vous pouvez y aller sans problème. On ne vous en voudra pas de nous quitter. Mais j'ai encore quelques questions. Donc, pour les autres, on peut prendre encore une dizaine de minutes pour continuer à réfléchir avec vous, Gabi, sur évasion et prison. Alors, donc, vous retournez à l'action clandestine au sein d'Hyper-Étarac le 21 juin 87, donc quelques mois après votre évasion. Votre complice d'évasion et ami Madi Egui meurt à un moment où on l'arrête pendant une arrestation. Et quelques jours plus tard, vous êtes vous-même arrêté et enfermé à la prison de la Santé. À partir de là, c'est 17 années dans 14 prisons différentes, 17 si on compte les 2 ans et demi que vous aviez accompli avant de vous faire la belle. Comment est-ce que vous vivez, évidemment c'est très détaillé dans votre livre, mais en quelques phrases, c'est 17 années de comment vous tenez et est-ce que l'idée de l'évasion revient pendant toute cette période?
Comme je disais, quand vous êtes évadé une fois, après on vous surveille comme le lait sur le feu. Hein, c'est-à-dire que bon, vous passez ce temps-là, c'était le passage au cachot, au mitard, qui était encore de 45 jours. Donc vous avez 45 jours où vous vivez la condition de reclus dans la réclusion. Là aussi, on a évoqué la question du suicide. Il faut rappeler que dans les prisons françaises, on se suicide 7 fois plus que dans le monde extérieur. Et en prison, on se suicide 7 fois plus au mitard qu'en détention dite normale. Hein. Donc vous voyez que c'est vraiment un lieu mortifère avec un M majuscule. Et donc j'ai d'abord commencé à avoir 45 jours de mitard. Et puis au sortir du mitard, je me disais, tiens, je vais jouir entre guillemets de la détention normale. Ouais, tu vas passer juste de côté grillage, tu vas aller au quartier d'isolement. Et là, je suis resté 3 ans. 3 ans qui ont été une période durant laquelle vous êtes mis à l'état d'animal. Hein. 21 ans après, je suis toujours à marcher 6 pas sur 6 quand je prends le téléphone, des fois même au boulot, quand je fais des réunions avec des collègues. Je me lève et je marche les 6 pas sur 6 que je faisais quand j'étais en cellule, à l'isolement. L'isolement total, c'est au bout de 7-8 mois, vous commencez à bégayer, vous n'avez plus la possibilité de lire une page de livre jusqu'au bout, de vous concentrer, de regarder un programme télé, vous n'arrivez plus à vous concentrer de la sorte. C'est des conditions que je qualifie d'infrahumaines, qui vous sont imposées. Et vous avez aujourd'hui, dans les prisons françaises, des prisonniers qui, depuis des années et des années, sont à l'isolement total. Et quand on sait, quand on voit les textes, ce que le législateur donne comme mission à l'administration pénitentiaire, qui est entre autres, certes, la garde, mais aussi l'insertion et la lutte contre la récidive, le fait est que ces gens-là vivent dans des conditions qui forcément vont les amener déjà à ne pas être réinsérés dans notre société, mais à récidiver. Hein. Logiquement, forme cette conscience populaire de dire il faut être ferme avec ceux qui violent le contrat social. Il y a très très peu de récidives chez les gens qui commettent des crimes. C'est vraiment peanuts, tu as utilisé ce terme très très mignon. Et vraiment, il faut le savoir, c'est très très peu de gens qui récidivent, qui ont commis des actes lourds. Mais lorsque ça arrive, parfois il m'arrive de prendre position et de dire, mais c'est des... la personne qui a récidivé a une partie de responsabilité, certes, sauf bien sûr ceux qui ont des problèmes psychiatriques lourds, mais ceux qui ont commis des actes, ils ont une part de responsabilité. Mais j'appelle à ce que les autres maillons de la chaîne de responsabilité soient montrés du doigt, et entre autres l'administration pénitentiaire qui maintient des gens dans des conditions infrahumaines, dans des conditions qui est de fait une incitation à la récidive. Et je rappelle que, là aussi, je ne veux pas exagérer là-dessus, mais nous sommes co-responsables, nous, toutes et tous, du chaos carcéral. Hein, parce que la justice est rendue tous les jours en notre nom, c'est au nom du peuple français qui a rendu la justice, et par nos impôts, nous payons aussi l'administration pénitentiaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un lien réel entre ce que vivent ces milliers de personnes détenues et nous aujourd'hui. Nous sommes co-responsables de cette réalité.
Alors, pour tout ce qui est du détail du vécu de votre détention, je renvoie à la lecture de votre livre. Je voudrais venir rapidement sur ce que vous faites aujourd'hui,
l'organisation
Gabi.
Nous dit qu'on finisse.
Oui, on va en une dernière question.
Je serai bref pour une fois. Je suis donc je suis à l'origine le fondateur et le directeur de la ferme Emmaüs Bodone dans le sud des Landes, voilà. Qui est le seul établissement en Europe qui accueille des femmes nuit et jour qui sont détenues. C'est pour ça que j'ai eu l'an dernier une évasion d'une femme qui a fallu organiser les recherches avec la police et la gendarmerie. Elles font du maraîchage biologique. Donc, elles peuvent rester 2 ans, elles peuvent échapper à la prison pendant 2 ans, et plutôt que d'être dans une situation, d'animal dans 9 mètres carrés, elles sont dans les champs, elles sont dans le respect, dans la sororité vécue au quotidien dans notre ferme, et ça se passe bien. Merci.
Mais cet établissement, il dépend de l'administration pénitentiaire. Vous êtes...
Dieu m'en garde.
Vous êtes directeur de prison aujourd'hui, ou bien...
Nous appartenons au mouvement Emmaüs.
Mais d'accord.
Merci pour votre douce provocation. je n'ai pas d'épaulettes, je n'ai pas de képi. Nous sommes membres du mouvement Emmaüs, donc par essence nous sommes un lieu de liberté, et il se trouve que la liberté que l'on a, eh bien, on la met au service depuis 72 ans des plus précaires, des plus en difficulté de notre société, et les personnes détenues sont partie prenante de cette population en souffrance. Et donc depuis quelques années nous avons créé plusieurs fermes, majoritairement pour les hommes détenus, et donc ce site est destiné uniquement au bénéfice des femmes détenues.
Mais vous avez des liens, j'insiste, avec l'administration pénitentiaire. Vous avez renvoyé récemment en prison une femme dont vous avez jugé qu'elle n'avait pas sa place dans votre établissement, et vous avez eu à gérer une évasion.
Tout à fait. J'ai géré une évasion. C'est moi qui ai appelé l'autorité publique. On n'a pas le temps d'en parler, mais je peux vous expliquer très clairement les raisons qui m'ont amené à appliquer, j'allais dire, la procédure. Reçoit du financement, vous le savez, une place de prison, hein, on paye pour maintenir dans 9 mètres carrés à peu près 100-105 euros par jour par personne détenue, et la même administration pour les personnes qui nous sont confiées, donc des personnes placées sous main de justice, eh bien on reçoit 45 euros par jour et par personne. C'est-à-dire pour fracasser quelqu'un, pour la maintenir la tête sous l'eau, et bien souvent incapable de se réinsérer, on paye 100 euros par jour et par personne. Et pour remettre debout et en marche, quand je dis en marche, ça n'a aucune connotation politique, vous l'aurez compris, l'administration met 45 euros par jour. Merci pour votre attention.
Merci à vous, Gaby. Peut-être que les dernières questions qu'on a soulevées là tout de suite, on peut continuer à en discuter avec vous la bouche pleine pendant le repas. Et puis je signale demain, vous allez participer à partir de 9h30 à un parloir libre sur le thème l'évasion des autres. Et ben, c'est des questions que vous allez pouvoir approfondir. Donc demain, vous regardez sur le programme pour le lieu, mais si vous avez envie de continuer à réfléchir avec Gaby. Voilà, merci à tous. Et puis également, je vous signale, même heure, même endroit, Ma Grande Évasion avec Éric Jaillat demain, donc, et puis avec François Besse qui est là dimanche à midi. Merci, bon appétit.